Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est le Proton se rebiffe. Bonsoir. Ce soir, sur Le Proton se rebiffe, nous allons parler du livre de Nicolas Lamblé « Pour un dénatalisme libertaire », sous-titre « Ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste ». Et c'est publié par les éditions du Monde Libertaire, à un prix extrêmement raisonnable puisqu'il ne coûte que 10 euros. Tant qu'à faire, autant lire l'introduction qui est tout à fait claire. Et cette introduction est chapeautée par une citation de Fernand Colnay en 1907, qui écrit dans la Grève des ventres « Ne procrée plus d'esclaves. Puisque tu es impuissant à sortir de ton enfer, ne t'obstine pas à te reproduire, à créer des enfants pour qu'ils te succèdent dans la noire géhenne. Et la bourgeoisie sera par terre. » Et puis voici le texte. Évoquer le dénatalisme peut prêter à controverse et faire l'objet de polémiques. Certaines pourraient y voir l'affirmation d'une idée misanthropique. D'autres, une volonté de déculpabiliser ou de décomplexer les personnes qui auraient commis ce sacrilège de ne pas enfanter. Un sujet qui reste encore très tabou de nos jours, du fait notamment de l'importance de la pression sociale et familiale, surtout pour les femmes. N'est-ce pas tourner le dos à la « civilisation » que de refuser de donner naissance? N'est-ce pas le rôle de tout être vivant? Tant de questions et d'autres qui reviennent régulièrement dès que l'on aborde le sujet. Des remarques qui fusent dans tous les sens à la moindre remise en cause du fait d'enfanter. L'idée de perpétuer l'espèce, la descendance ou de tout simplement vouloir laisser une trace de son existence à travers la reproduction, reste toujours solidement intégrée dans les consciences. Le fait d'enfanter sera parfois justifié par un supposé instinct maternel, ancré tel une machine biologique dans le corps des femmes, en faisant appel à un concept de nature et en voulant essentialiser les rapports humains. Puis, plus généralement, avoir des enfants sera considéré comme le but de toute une vie. La norme sociale que l'on intègre dès la naissance définissant une vision agiste de l'évolution de l'individu, enfant, adolescent, adulte, retraité, avec une des finalités de l'existence qui serait la reproduction. De ce fait, si l'on refuse cette norme, on se retrouve identifié comme déviant. Combien de livres, d'émissions télévisées présentent des personnes sans enfants comme à asseoir sur le divan psychanalytique afin de fouiller dans leur vécu ce qui leur aurait fait défaut. Trop souvent, le débat, afin d'expliquer la volonté de non-enfant, est amené sur une introspection de l'individu et est relégué à du psychologique de bas étage avec une approche subjective de la question. Malheureusement peu sur une prise de conscience liée à une vision collective du monde, sur le système politique en général, le modèle de production et de distribution des richesses de notre environnement, et rarement aussi sur la mise en lien de cette thématique avec les rapports d'exploitation, d'oppression et de domination définissant le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Nationalisme, patriarcat, sexisme, racisme, spécisme, etc. Il est important de s'emparer du natalisme afin de le sortir d'une vision individuelle et pour l'aborder dans un cadre davantage social. Car décider de faire des enfants ne peut pas juste se penser et se réfléchir par rapport à soi, mais aussi en prenant en compte tout un milieu global dans lequel on évolue. Nous verrons comment le dénatalisme se retrouve en lien avec différentes problématiques environnementales, politiques. Comment la crise écologique, le recul des droits sociaux, l'augmentation sans fin des inégalités, les différentes dominations basées notamment sur la classe, le genre, l'âge, peuvent interroger l'idéologie nataliste. Il est aussi nécessaire de tordre le cou aux théories réactionnaires qui profiteraient de la question populationniste pour stigmatiser les pays du Sud. Un des objectifs de cet écrit est, entre autres, de montrer comment le dénatalisme laisse davantage de place, de temps, de liberté et d'autonomie afin de s'investir dans des dynamiques de changement et de lutte pour des horizons de transformation révolutionnaire. Comment le dénatalisme peut être un outil nécessaire, trop souvent occulté, afin d'appuyer un rapport de force anticapitaliste. Cette société marchande, et plus généralement le capitalisme, laisse-t-elle des possibilités d'existence autres que celles de consommer à des êtres destinés à n'être que de futurs engraisseurs du capital, servant à toujours augmenter la productivité? Il nous faut donc non pas axer notre vision uniquement sur l'aspect démographique, mais aussi sur les rouages internes du pouvoir et ses dominations intrinsèques, car tout cela influe sur notre imaginaire et, inévitablement, sur nos choix. Il est ainsi vital d'étudier le rôle et l'influence de l'État, de la religion, de la société marchande, de la famille, comme éléments constituant ces différentes dominations du système. L'injonction nataliste fait partie de ce corpus idéologique oppressif. Comme nous le verrons par la suite, certaines dans le passé, comme les néo-malthusiens, malthusiennes, avaient déjà mis en évidence les liens entre antinatalisme et d'autres luttes, l'antimilitarisme, le syndicalisme, le féminisme. Des organisations telles que la Ligue de la Régénération Humaine de la fin du XIXe siècle, des groupes ouvriers néo-malthusiens, et des personnages comme Paul Robin, Marie Huot ou d'autres, ont pu ouvrir la voie vers des perspectives d'émancipation qui restent toujours d'actualité. Cela, même si certaines luttes restent attachées à un contexte historique précis. Au-delà des politiques populationnistes, c'est tout un cadre systémique oppressif et répressif dans lequel nous vivons qui est à supprimer.
Schweigt stille, plaudert nicht und höret, was ist und geschieht. Da könnt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her, ihr brummt ja wie ein Seidelbär. Hört selber, was sie ihm getan.
Nicht mit seinen Kindern 100.000 Hurerei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hurerei, 100.000 Hurerei, 100.000 Hurerei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hurerei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, geht ohne Frucht vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Frucht vorbei. Ha hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Rudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Rudelei, 100.000 Rudelei, 100.000 Rudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Rudelei, 100.000, 100.000 Rudelei. Böses Kind, du loses Mädchen, ach, wenn erlang ich meinen Zweck, tu mir den Kaffee weg.
Herr Vater, sei doch nicht so scharf, wenn ich des Tages nicht dreimal mein Schälchen Kaffee trinken darf, so werd ich ja zu meiner Qual wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.
C'était un extrait de la Kaffee Cantata, la cantate du café de Johannes Sebastian Bach. Et notre bon Bach, là, il, pour une fois, il a fait quelque chose de drôle. C'est une cantate où un papa est mécontent parce que sa fille ne lui sert pas son café assez vite. Et la fille, donc la voix féminine qu'on a entendue, pour être tout à fait honnête, l'envoie paître avec vigueur. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, et nous continuons à parler dans Le Proton sur Bif du livre de Lamblay Nicolas pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anti-capitaliste. Le premier chapitre de ce livre parle à raison, entre autres choses, de la religion et de son rôle dans l'idéologie nataliste. Je le lis, page 19. Pour la religion, il faut agrandir le troupeau des agneaux de Dieu. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, la logique populationniste fut celle de la toute-puissance. Cette obligation nataliste se retrouve comme consubstantielle à l'idée de civilisation. Des premières cités sumériennes jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'enlèvement des Sabines lors de la fondation de Rome, tout pouvoir aura intérêt à avoir une grande réserve de population par la conquête de nouveaux espaces, en intégrant les nouvelles personnes et en poussant son peuple à se reproduire. Le pouvoir passe par la conquête puis la défense du territoire, et pour cela, il faut de nombreux soldats. De plus, à une époque où la sécurité sociale n'existe pas encore, avoir des enfants est nécessaire pour la survie économique de la famille. Une forte population permettra aussi d'engraisser l'État par le prélèvement d'impôts, de taxes. Comme le proclamait Henri IV, la force et la richesse des rois et princes souverains consistent en l'opulence et nombre de leurs sujets. Les États et nations modernes restent toujours dans cette idée. La religion et ses préceptes se transposent sur le mode civil et la fameuse injonction biblique tirée de la Genèse « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre » illustre bien. L'acte sexuel ne peut qu'être et ne doit être que reproducteur. Toute notion de plaisir est donc par là évacuée, et derrière arrive la condamnation de tout ce qui ne rentre pas dans cette logique. De là la stigmatisation de l'homosexualité, de l'onanisme, ou encore des relations hors mariage. Comme le rappelle Xavier Gauthier, ouvrez les guillemets, le judéo-christianisme n'interdit pas seulement l'avortement, mais toute limitation des naissances, en particulier le crime donnant, c'est-à-dire le coït interrompu, qui est longtemps resté la bête noire de l'Église catholique, fermez les guillemets. De plus, comme on le sait, la misogynie est consubstantielle aux différentes religions. Bien sûr, les deux autres grandes religions monothéistes, l'islam et le judaïsme, partagent les mêmes condamnations et les mêmes préceptes natalistes et misogynes. Il faut donc se reproduire pour dominer et asseoir son pouvoir sur tout ce qui nous entoure. L'humain est au centre du vivant, du monde, et la seule fonction qu'il peut trouver dans tout ce qui l'environne ne peut être que utilitaire. Tout ce qui vit et existe n'est là que pour servir ses propres intérêts. La seule idée qui compte, c'est l'humain. L'anthropocentrisme et l'ethnocentrisme sont des pièces idéologiques maîtresses dans la manière de penser le monde. La guerre est déclarée à tout ce qui entrave son développement démographique, son système de production. L'État assurera, avec l'assentiment religieux, la protection du territoire où il exerce sa puissance. Cet espace devra être défendu ou étendu par de nouvelles guerres. Ce principe se retrouvant dans la défense de la nation et dans les différents élans militaristes visant à promouvoir l'idée de grandeur nationale. Légiférer sur la natalité, le mariage, et de manière plus générale sur la famille, deviendra ainsi une obsession des puissances. Il leur faut poser les bonnes conditions sociales d'une succession économique. L'imposition d'un cadre pour fixer des règles concernant la reproduction sera là une étape importante. Il faut unifier les pratiques, les coutumes de la masse, et cela passe par la loi. Normaliser les relations entre les personnes devient primordial. Un cadre juridique législatif doit se mettre en place afin d'homogénéiser les rapports intimes entre individus. L'adultère, l'enfantement hors mariage, etc. seront passibles de lourdes peines, pouvant aller, suivant les sociétés, jusqu'à la mort. L'historienne Brigitte Lyon écrit que dès les civilisations mésopotamiennes, ouvrez les guillemets, la famille mésopotamienne est fondée sur l'institution du mariage. Celle-ci implique avant tout deux familles. L'homme, ou parfois son père, négocie avec les parents de la jeune fille et verse à sa belle-famille un présent. La fille reçoit de ses parents une dot destinée à être transmise plus tard à ses enfants. Le mari peut gérer la dot, mais elle ne lui appartient pas et il doit subvenir à l'entretien de son épouse. Le droit protège l'institution du mariage qui constitue l'une des bases de l'organisation sociale. La femme adultère, surprise en flagrant délit, peut être sévèrement châtiée. Une peine identique s'applique à son amant, le code d'Amourabi laissant le choix à l'époux, la mort par noyade pour les deux coupables ou la grâce pour les deux. Fermez les guillemets. Les lois assyriennes, compilées à la fin du deuxième millénaire, prévoient comme autre châtiment les mutilations. Sous l'Antiquité romaine, se marier et avoir des enfants représentait pour les Romains un devoir religieux et civique. Au Ve siècle avant notre ère, deux hommes d'État romains, Camille et Postumius, imposent aux célibataires le paiement d'une amende et aux orphelins le paiement de taxes, ouvrez les guillemets. La nature, en vous donnant la vie, vous fait une loi de la communiquer à d'autres. Et vos parents, en vous élevant, vous ont imposé une obligation où votre honneur est engagé, celle d'élever vous-même votre postérité. Ajoutez que le sort lui-même vous a accordé un assez long délai pour l'accomplissement de ce devoir. Et cependant, vous avez laissé passer vos années sans vous donner les titres d'époux ni de père. Allez donc, et versez cet argent que vous aimez bien, pour qu'il serve à la grande famille des citoyens. Fermez les guillemets. Selon le magazine L'Histoire, l'empereur Auguste étendait ses prérogatives à la fécondité de ses sujets et fit adopter des lois sur le mariage et l'adultère. L'adultère des femmes devint un crime. Les célibataires et hommes mariés sans enfants se voyaient imposer des restrictions à leur droit d'héritage. Le but était donc d'inciter à la reproduction, vu comme un devoir civique. S'y soustraire pouvait amener à un bannissement de la société, à être exclu et même criminalisé. Au XVIe siècle, avec la chasse aux sorcières, le célibat et le non-enfantement seront désignés encore davantage comme un problème appelant à être réprimé. Il n'est pas inutile de rappeler que le fait de ne pas avoir d'enfants était considéré comme suspect et pouvait être un élément à charge, menant au bûcher. Combien de femmes célibataires sans enfants se sont retrouvées condamnées comme sorcières ? C'était un extrait des variations de Mozart sur l'air de « Ah, vous dirais-je, maman ». Nous sommes toujours dans le Proton sur Rebif sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, et nous continuons à parler du livre « pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste, Lamblet Nicolas, les éditions du Monde Libertaire. Je continue la lecture, page 24. Au XVIIe siècle, la création de nouveaux impôts, les différents prélèvements fiscaux en hausse sous Louis XIV, notamment pour financer toutes les guerres du régime, appellent à toujours davantage de contributeurs. Colbert dota ainsi d'avantages fiscaux les mariages, la procréation et avantagea les familles nombreuses. Il tenta aussi de réduire le célibat des clercs, ce qui illustrait cette affirmation un siècle auparavant de l'économiste et philosophe Jean Bodin, « Il n'est de richesse que d'hommes ». Ceux et celles refusant le devoir d'enfanter se retrouvaient pénalisés par rapport aux autres ayant fait le choix inverse. Au XIXe siècle, au moment de la défaite de la France contre la Prusse, une propagande nataliste se développa encore davantage. En 1896, sera ainsi créée l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française par le statisticien Jacques Bertillon. Le but était, à ce moment-là, d'en appeler à la repopulation et surtout à ne pas se laisser distancer par l'Allemagne sur le plan démographique. Au XXe siècle, tout de suite après la Première Guerre mondiale, les premières allocations familiales apparaissent. Ce sont avant tout les syndicats patronaux, inquiets du futur manque de main-d'œuvre dans les usines dû à la saignée de la guerre, qui commenceront à les mettre en place. Elles ne se généraliseront qu'à partir de 1932 pour tous les salariés de l'industrie et du commerce. Dans l'après-guerre, l'atmosphère est donc à la repopulation, puisque le pays s'était vidé de sa population à cause de l'hécatombe. Georges Clemenceau déclare en 1919, ouvrez les guillemets, « Le traité ne porte pas que la France s'engage à avoir beaucoup d'enfants, mais c'est la première chose qu'il aurait fallu y inscrire. Car si la France renonce aux familles nombreuses, vous aurez beau prendre tous les canons à l'Allemagne, la France sera perdue parce qu'il n'y aura plus de Français. » Fermez les guillemets. Mais le véritable coup de grâce populationniste sera la loi de 1920 interdisant la contraception et l'avortement. La loi prévoit, entre autres, par rapport à l'avortement, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et une amende allant jusqu'à 72 000 francs de l'époque. Toute propagande néo-malthusienne et prônant les procédés contraceptifs est interdite. La loi du 29 juillet 1939 prolongera la loi de 1920 en autorisant notamment les médecins à violer le secret médical pour dénoncer un avortement. L'État français du maréchal Pétain, dans sa volonté d'axer ses politiques sur la famille, appliqua avec beaucoup de zèle la loi pronataliste de 1920, par l'intermédiaire notamment du ministère ou commissariat d'État de la famille. En 1920 toujours, en parallèle de cette loi nataliste, est créée la médaille de la famille qui récompense les parents ayant au moins 4 enfants. Elle existe encore de nos jours et est décernée avec la reconnaissance de la nation. Je passe à présent à la lecture de la page 33 où un chapitre commence étant intitulé « Les femmes, premières victimes ». Ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que le système de genre ? C'est le système cognitif qui sépare l'humanité en deux groupes totalement distincts, totalement étanches, exclusifs l'un et l'autre, et totalement hiérarchisés. En ceci, le système de genre se distingue du système de classe classique. Il repose pourtant sur une organisation sociale en classes, les classes de sexe ou de genre. Cette organisation sociale, dans laquelle les femmes sont opprimées et exploitées en tant que groupe par l'autre moitié de l'humanité, s'appelle le patriarcat. Le système de genre est donc l'aspect cognitif du patriarcat, organisation politico-économique, tandis que le sexisme est leur idéologie commune. Ceci étant écrit par Christine Delphi dans « Classé, dominé, qui sont les autres ?» et une autre citation de Lucy Stone, féministe et abolitionniste américaine. « Partout sur cette terre, les femmes n'ont aucune existence politique. Les lois passent au-dessus de nos têtes que nous ne pouvons pas supprimer. » Notre propriété nous est retirée sans notre consentement. Les bébés que nous portons dans l'angoisse et que nous portons dans nos bras ne sont pas les nôtres. Fermez les guillemets. Nous avons vu auparavant comment le pouvoir, l'État, vont pousser au populationnisme et comment aussi ils dénigrent et stigmatisent les sans-enfants. Dans ce processus d'ostratisation des personnes ne rentrant pas dans des dynamiques natalistes, les femmes représentent la catégorie sociale qui se retrouve la plus opprimée. En effet, dans une société d'hommes, elles seront vues comme sournoises, manipulatrices, conspirant constamment contre les mâles. Tout le discours que l'on peut retrouver notamment chez les masculinistes qui considèrent que les femmes ont un projet, celui de dominer et d'écraser les hommes, afin qu'ils perdent leur place dans la société. Elles comploteraient contre les hommes, dans le but de les humilier, de les ridiculiser. Ceux-ci refusant de voir remettre en cause leur rôle de dominant et d'oppresseur qu'ils exercent depuis des millénaires sur elles. Combien de mutilations, de souffrances, afin que les femmes restent sous le contrôle des hommes. Elles subissent des ablations du clitoris, des viols, des jets d'acide sur le corps, des brûlures, des enfermements, tout cela dans le but de les humilier, de les soumettre, de les renvoyer à un rôle de reproduction sociale, les hommes voulant disposer d'elles selon leur gré. De tout temps, les corps des femmes se sont vus contrôlés étroitement, criminalisés, ne devant pas entraver cette reproduction sociale. Au XVIe siècle, une ordonnance d'Henri II punit de mort le fait d'avorter, mais aussi le fait de cacher sa grossesse. En 1672, sous Louis XIV, lors de l'affaire des poisons, la sage-femme, la voisin, pratiquait des avortements. Elle avoua, ouvrez les guillemets, avoir brûlé dans le four ou enterré dans son jardin les corps de plus de 2500 enfants nés avant terme, fermez les guillemets. La voisin fut décapitée et brûlée en 1680 à Paris. D'après l'historien Alfred Soman, il y eut 1500 condamnations à mort pour infanticide entre le XVIe et le XVIIIe siècle au Parlement de Paris. Combien de femmes, il n'y a pas si longtemps, étant dans l'incapacité de maîtriser leur fécondité, se sont retrouvées être enceintes de leur 8e, 9e, 10e enfant, prisonnières de la poussée de testostérone de leur mari violent, passées devant les tribunaux pour infanticide, car à une époque où l'avortement était criminalisé, il ne leur restait plus le choix devant un énième enfant que de s'en débarrasser. Dans Caliban et la sorcière, Silvia Federici nous explique qu'une des priorités du pouvoir au moment du passage de la société féodale au mode de production capitaliste fut, sur fond de lutte contre les communs et la mise en place de la politique d'enclosure, le contrôle du corps des femmes. Celles-ci se voyaient réduites seulement à la reproduction et au travail domestique. La chasse aux sorcières fut l'une de ses conséquences désastreuses et elle s'y voyait assimilée au malin, au diable. Le Malleus Maleficarum, entre parenthèses marteau des sorcières, écrit au XVe siècle, théorise malheureusement très bien cette horreur. Cet épisode de sexocide tua entre 70 000 et 80 000 personnes dans l'espace de 3 siècles, dont 70% étaient des femmes. Parmi elles, énormément étaient célibataires sans enfants et finissaient condamnées et tuées. Beaucoup de vieilles personnes, considérées comme inutiles parce que ne pouvant plus enfanter, se retrouvèrent isolées et montrées du doigt. Les personnes âgées, surtout les sans-enfants, seront considérées comme suspectes, vivant en dehors de la société. En juillet 1943, une femme, Marie-Louise Giraud, considérée comme criminelle en tant qu'avorteuse ou faiseuse d'ange, comme l'on disait, sera guillotinée place de la Roquette, à Paris. Il faudra attendre 1967 avec la loi Nevers pour avoir une première dépénalisation de la contraception. Quelques années supplémentaires pour son décret d'application. Ainsi, la loi ne devient effective vraiment qu'à partir de 1972. Ces gouvernements d'hommes, ces tribunaux d'hommes, cette justice de phallocrate contrôlent et jugent la vie de millions de femmes. Celles-ci se retrouvent le plus souvent jugées, condamnées pour ne pas satisfaire les plaisirs d'une société patriarcale nataliste. Comment ne pas évoquer aussi le fameux procès de Bobigny en 1972, où une jeune fille, Marie-Claire Chevalier, 16 ans, enceinte après un viol, refuse de garder l'enfant et avorte. Sa mère et d'autres personnes, ayant appuyé le choix de Marie-Claire, se retrouvent aussi jugées lors du procès. L'avortement est jugé tel un crime, alors que le viol, lui, est davantage vu, à ce moment-là, comme un fait accessoire. Cette affaire, défendue par l'avocat Gisèle Halimi, sera médiatisée et participera à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, qui interviendra 3 ans plus tard avec la loi Veil. En parallèle, une critique féministe se développe autour de la reproduction considérée comme un asservissement. Les différents textes du MLF, Mouvement de Libération des Femmes, issus de leur journal Le Torchon Brûle, auront des titres assez évocateurs. La France vaut bien une fausse couche, ou encore Contraceptions et avortements libres et gratuits. Dans le journal Les Pétroleuses, on peut lire un article intitulé « Je revendique le droit de ne pas être coupé en deux ». En 1975, le collectif Les Chimères axait son discours sur la maternité, vue comme une aliénation totale. Il est intéressant de noter que lorsqu'on pose cette question « Quel a été pour vous le progrès majeur du XXe siècle ?», la majorité des femmes répondent « Le contrôle de la fécondité », alors que les hommes répondent « La conquête spatiale », ce qui est assez représentatif de cette société patriarcale et genrée, où les préoccupations et les luttes des femmes en faveur de la réappropriation de leur corps et de la maîtrise de la fécondité passent en arrière-plan, voire sont ignorées pour de nombreux hommes. Et pourtant, plus elles sont libres, plus elles ont la maîtrise de leur corps et de l'accès à l'éducation, moins elles choisissent de faire des enfants. Effectivement, on peut dresser un rapport suivant le taux de fécondité et l'alphabétisation. Plus celui-ci est haut, moins le taux de fécondité est élevé. On l'a vu en Europe avec une baisse des naissances depuis les années 1960. On peut s'apercevoir que plus les femmes sont instruites, ont des droits, maîtrisent leur fécondité, et plus le nombre des naissances est faible. Lorsque le patriarcat est fort, les naissances le sont aussi. Dans les pays qui ont des taux d'alphabétisation très bas, en dessous de 20% pour les moins hauts, les premières touchées sont toujours les femmes, et en parallèle, on trouve dans ces mêmes territoires des taux de fécondité très élevés. Il y a donc clairement une corrélation entre l'accès au droit, à l'éducation, à la connaissance et le taux de fécondité. Thank you. C'était une magnifique interprétation d'un prélude de Bach par John Williams. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et le Proton se rebiffe ce soir parle d'un livre publié par les éditions du Monde Libertaire qui s'appelle « Pour un dénatalisme libertaire ». Ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste, et c'est de Lamblay, Nicolas. Nous continuons la lecture des nombreuses sources riches données par ce livre qui a fait une excellente enquête. Page 68. En octobre 2018, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, remettait un rapport alarmant sur les réchauffements climatiques. Parmi les solutions proposées figuraient par exemple l'abandon de la voiture à essence, le développement de la transition énergétique et un rapport de l'AFP reprenant une étude de la revue environnementale Environmental Research Letters mettait en avant le fait qu'une des solutions les plus importantes pour réduire l'impact carbone était de faire un enfant de moins. Tout de suite, les réactions ne se sont pas fait attendre de politiciens et politiciennes s'offusquant de la déshumanisation de la société ou du retour du malthusianisme. Voyager moins, ne plus utiliser la voiture passe encore, mais appeler à réduire le nombre d'enfants, là, c'était trop. Les rédacteurs de l'AFP ont dû s'expliquer, se justifier et presque s'excuser concernant ces déclarations. Le tabou dénataliste est toujours aussi vivace. Faire le choix de mettre au monde de nouveaux êtres vivants, c'est prendre cette responsabilité d'aggraver encore davantage cet état de fait. Imaginez que ceux ou celles qui viendront après nous pourraient remédier à cette situation n'est ni plus ni moins que jouer à la roulette russe. Ils et elles ont malheureusement plus de chances de se retrouver du côté du problème que de celui de la solution. Étant conscient de tout cela, n'est-il pas plus logique de se poser un instant pour réfléchir à des actions de comment changer la donne, plutôt que continuer, comme si de rien n'était, à se ranger du côté des populationnistes et participer de fait à l'aggravation de l'état du monde? Si tout cela nous importe peu, alors oui, ayons des enfants. Pour ma part, je préfère me ranger du côté de certaines child-free qui répondent à ces questions. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Tu es égoïste de ne pas en avoir? Par cette réponse, j'aime trop mon enfant pour le mettre au monde. Je passe à la page 74. Le fameux instinct maternel, le concept d'ordre naturel, permet de légitimer une organisation de la société considérée comme figée, aussi inique et inégalitaire qu'elle soit, sans pouvoir la remettre en question. Tout pouvoir sera vu comme inéluctable et nécessaire. Les humains, les humaines doivent se reproduire, c'est leur fonction. Sans descendance, plus de civilisation. Combien de postulats sociaux sont établis par une obéissance à ce concept de nature? La guerre, la domination des hommes sur les femmes, manger d'autres animaux, tout cela est considéré comme immuable et incontournable pour l'unique raison que ce serait comme ça. C'est la nature, tout simplement. À une époque pas si lointaine, la légitimation de l'esclavage relevait d'une même logique. Dans le passé, les personnes qui échappaient à cette réalité ou qui la remettaient en cause étaient considérées comme hérétiques pactisant avec le diable et, telles des sorcières, finissaient sur le bûcher. Avoir des enfants permet aux hommes de laisser une trace, un nom de famille, vu comme une fierté sociale. Les enfants se retrouvent chosifiés, est destiné à jouer un rôle dans le narcissisme des parents. Les enfants doivent être le miroir des parents et de leurs passions. Tout ce processus nataliste devient une sorte d'automatisme ancré dans le déroulement d'une vie. De nos jours, où tout devient psychologique, où les consultations et le canapé du psychanalyste ont remplacé l'ancien confessionnal religieux, les femmes et les hommes qui refusent ou qui n'ont pas d'enfants se retrouvent suspectes. On va fouiller dans leur passé ce qui aurait pu leur faire défaut. Manque d'amour des parents dans leur enfance, violence sexuelle. Certaines et certains en sont encore à expliquer l'homosexualité de cette manière. À notre époque, en France, 6,3% des hommes et 4,3% des femmes de 15 à 49 ans déclarent ne pas avoir d'enfants ou ne pas en vouloir. Seulement 14% des Européens n'ont pas d'enfants, ce qui reste une infime minorité. De quoi facilement pouvoir la montrer du doigt. Ne pas vouloir d'enfants, c'est pour la société bien pensante se placer hors du monde civilisationnel, s'exiler volontairement hors de l'humanité. Dans une société qui accorde une grande place à ceci, où tout un marché les vise directement, où la majeure partie des discussions entre adultes tourne autour de cette question, comment bouder un principe, celui de la reproduction, alors qu'il est vu comme une fin en soi et même comme une existence réussie. En effet, assurer une descendance sera pour beaucoup synonyme de vie accomplie. Les enfants se retrouvent au centre des préoccupations familiales et marchandes. Ils deviennent des acteurs, malgré eux, de tout un marché ayant pour but de toujours les séduire, les appâter par une stratégie de communication visant de leur faire exercer des pressions sur leurs parents, détenteurs du capital. Le but est de faire des enfants une sorte de supplétif du système de la marchandise, ou d'en faire des agents de liaison et de collaboration entre le capital et ses acteurs adultes. Ainsi, lorsqu'un enfant pique une crise de nerfs dans un rayon de magasin, la séduction marchande et matérielle a bien joué son rôle. Le but du marché est de coloniser l'imaginaire des enfants par la création d'une culture qui leur serait propre. Ils se retrouvent alors dépossédés de toute subjectivité et tout leur est imposé. Tout leur être est construit par le système de la marchandise. Ils se retrouvent formés et conditionnés à devenir des adultes capables, des majeurs, des êtres salariés amenés à nourrir le Léviathan capitaliste. Le marché économique des enfants est juteux. Effectivement, en France, pour l'année 2016, le marché du jouet représentait 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et il augmente régulièrement d'année en année. 87,4 milliards pour les États-Unis en 2015, alors qu'il était de 78,31 milliards en 2007. Les enfants sont exposés chaque jour à des milliers de publicités les concernant. Dans le marketing, le but est de développer chez les jeunes enfants de plus en plus tôt une reconnaissance de la marque. D'après le Center for American Dream, les bébés de 6 mois peuvent déjà former des images mentales de logos et de mascottes. À l'âge de 2 ans, la fidélité à la marque peut déjà être établie. Dès l'école, les enfants pourraient reconnaître des centaines de logos. Les experts du marketing font appel à des psychologues afin de cibler davantage ces jeunes populations en analysant notamment leurs besoins émotionnels, sociaux, suivant leur âge. Les films family friendly vont permettre de conclure des licences sur les produits dérivés. Selon le journal Les Échos, les ventes de grandes firmes comme Mattel, Lego, etc. dépendent en grande partie du succès de ces films. Maintenant, de plus en plus d'entreprises misent sur les smart toys, des jouets électroniques et interactifs. Les enfants se retrouvent ainsi complètement colonisés par l'univers de la marchandise. Ils sont complètement formatés. Le marché n'a plus aucune limite. La gamme des produits à destination du sujet économique enfant est vaste. Combien d'emplois liés aux enfants dans le domaine de l'éducation, de la santé, et on ne parlera pas des ouvrières et ouvriers esclaves, notamment en Chine et dans les pays du Sud, qui travaillent à la chaîne pour produire ces fameux joujoux par milliers. Ces joujoux permettront, entre autres, de les assigner à leur place précise suivant leur genre. Les enfants sont bien un sujet important dans la chaîne économique. Ils sont, malgré eux, un enjeu central dans la société de consommation, car ils sont aussi ceux et celles qui seront de futurs consommateurs. Il faut donc les dresser. Page 86, on lit ceci. On estime, d'après une étude, qu'un enfant coûte en moyenne de la naissance jusqu'à sa rentrée dans la vie active 9000 euros par an, ce qui amène dans la totalité à environ 180 000 euros jusqu'à ses 20 ans. D'après une étude espagnole, ce chiffre pourrait s'élever jusqu'à 300 000 euros. De quoi rendre docile n'importe quel parent ? Les allocations familiales n'étant jamais suffisantes pour combler les futures dépenses. Cette pression financière à l'éducation ne peut que développer soumission et résignation sur des personnes, notamment les plus pauvres, appelées à survivre au quotidien dans une vie de précarité et d'instabilité pécuniaire. Combien de grévistes se remettent ainsi au travail afin d'assurer un minimum de vie matérielle à leurs enfants ? Lorsque j'ai rencontré des militantes des Fralib qui luttaient afin de récupérer leur outil de production contre la fermeture de leur usine décidée par le groupe Unilever à Gémenos, je ne fus pas surpris d'entendre que les ouvrières qui avaient décidé de suivre l'aventure jusqu'au bout étaient celles et ceux qui avaient le moins de vie de famille. En effet, l'avenir incertain du devenir de l'usine faisait que les personnes qui avaient des urgences familiales ne pouvaient pas risquer de mettre en péril leurs proches en continuant le combat. Faire des enfants ne pourra que réjouir un État demandant toujours davantage de force de travail et d'obéissance aux injonctions du pouvoir. Les travailleuses et travailleurs seront condamnés à se soumettre au bon vouloir du capital dans ce chantage nataliste. Lors de grèves dans les écoles, devant l'impossibilité pour beaucoup de parents de garder leurs enfants, se met en place un chantage affectif distillé par les médias, amenant toujours à culpabiliser ces salauds de grévistes inconscients qui fragiliseraient les familles. Et terminons avec la page 107. Chaque nouvelle naissance dans le monde occidental est une véritable bombe écologique à retardement. La sinistre démarche de s'en prendre à la fécondité des familles du tiers-monde en pointant leur pseudo-inconscience reproductrice, n'a véritablement aucun sens. N'en déplaise à des personnages réactionnaires qui se seraient retrouvés dans cette immonde déclaration de Pascal Sevran en 2006, qui écrivait, ouvrez les guillemets, « Et alors, c'est la vérité ? L'Afrique crève de tous les enfants qui y naissent sans que leurs parents aient les moyens de les nourrir. Je ne suis pas le seul à le dire. Il faudrait stériliser la moitié de la planète. » Fermez les guillemets. Ces discours innommables et criminels, malheureusement partagé par toute une frange d'individus, nous rappelle quelquefois que certaines personnes auraient mieux fait justement de ne pas naître. Ces annonces permettent en plus, outre leur caractère absurde et génocidaire, d'évacuer les dominations économiques, culturelles, coloniales, françafricaines ou autres, des pays du Nord sur les pays du Sud. Mettre sur un même plan un occidental lambda qui consommera des téléphones portables, des iPhones, qui roulera peut-être en 4x4, en SUV, qui voyagera en avion, avec de l'autre côté une Congolaise qui sera condamnée à travailler dans des mines de coltan, qui serviront notamment à approvisionner en minerais ses petits joujoux, les téléphones et ordinateurs portables, entre autres pour occidentaux, est complètement ridicule. La population occidentale représente 20% de la population mondiale. Mais elle consomme environ 80% des matières premières de la planète en émettant plus de 60% des gaz à effet de serre. L'empreinte écologique d'un enfant européen est environ 15 fois supérieure à celle d'un enfant sénégalais. Une étude de l'Université de l'Oregon en 2012 a montré que chaque bébé qui voit le jour aux États-Unis est responsable de l'émission de 1644 tonnes de CO2, soit 5 fois plus qu'un bébé venant au monde en Chine et 91 fois plus qu'un enfant qui naît au Bangladesh. C'était Les Barricades Mystérieuses de François Couperin, interprété par Raphaël Feuillâtre. Et Le Proton sur Bif a donc parlé du livre de Lamblet Nicolas pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste. Ça a été publié par les éditions du Monde Libertaire. Vous pouvez vous le procurer, entre autres choses, à la librairie Quilombo 145 rue Amelot à Paris. Et sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, je vous retrouve tous les troisièmes lundis du mois pour Le Proton sur Bif à 21h et à 21h également tous les premiers lundis du mois pour Les Muses s'amusent. Et enfin, je vous souhaite une très bonne soirée. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est Le Proton se rebiffe.
Et à 22h30, vous retrouvez Nuit Noire sur Radio Libertaire. D'ici là, un petit peu de bande sans fin.
Fumar um charro.